en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Si vous avez choisi cette émission sur Canal Académie, c'est que vous manifestez de l'intérêt, de la curiosité, de l'admiration pour mon invité, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie, que j'ai le plaisir de recevoir en notre studio. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Je voudrais commencer par rappeler que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1993 et que vous avez succédé à Maurice Lelanoux.
C'est vrai.
Quelques mots sur votre prédécesseur ?
Écoutez, c'était un grand géographe de la Sardaigne. Et quand il arrivait en Sardaigne, des feux de joie s'allumaient sur les plages.
C'est vrai.
Ça doit mieux dire.
Pourtant, il était breton, d'après ce que j'ai pu lire.
Oui, mais enfin, ce sont toujours des populations à peu près romaines.
Voilà. Il était professeur au Collège de France aussi, où il tenait une chaire de géographie du continent européen.
C'est ça.
Au sein de cette académie, l'Académie des sciences morales et politiques, vous avez retrouvé un autre historien, Pierre Chaunu, qui avait été élu en 1982, c'est-à-dire presque 10 ans avant vous, succédant à Maurice Beaumont, et qui nous a quittés en octobre 2009. Vous avez donc siégé à ses côtés durant près de 15 ans. Quelle relation entreteniez-vous avec Pierre Chaunu ?
C'est une relation ancienne, puisque je l'ai connu dans l'entourage de Fernand Braudel il y a bien longtemps, et... Je ne sais pas, on avait peut-être 35-40 ans. Et d'une part, j'admirais beaucoup ses ouvrages sur l'Atlantique, et même sur le Pacifique, chose qu'on ne sait pas assez. C'est une énorme thèse qu'il avait terminée avec son épouse sur le commerce transatlantique au XVIe siècle. Le fameux galion de Manille qui faisait le trajet des Philippines au Mexique déjà, dès la fin du XVIe siècle, ce qui n'était quand même pas rien, avec chargé de diverses épices ou autres. Et puis alors, ses ouvrages suivants, notamment le XVIIe siècle, l'Europe classique, et le XVIIIe, l'Europe des Lumières. Et en particulier, il s'était intéressé non seulement au commerce international, mais aussi à la science, c'est-à-dire qu'il avait un esprit scientifique et il avait montré comment ce qu'on appelait le monde écrit en langage mathématique de Newton et Descartes, qui n'étaient du reste pas dans les mêmes idées toujours. Et en particulier, il avait été très frappé par la succession du paradigme de Copernic à Tycho Brahe, de Tycho Brahe à Kepler et de Kepler à Newton. En outre, il avait, dans son Europe des Lumières, il avait montré qu'il y avait aussi une Europe, pas seulement des Lumières laïques, mais des Lumières catholiques. Et en particulier, Louis XIV et Colbert ont fondé ensemble l'Observatoire de Paris. Et on ne saurait mieux s'intéresser aux Lumières.
Avez-vous travaillé avec Pierre Chaunu ? Avez-vous écrit quelque chose ensemble ?
Oui. Nous avions fait une enquête sur l'histoire du bâtiment, je me souviens, avec ses élèves. Et puis alors surtout, nous avons été les auteurs de l'histoire économique et sociale de la France, dirigée par Fernand Braudel et Ernest Labrousse. Il avait fait toute la première partie et moi la deuxième sur la vie rurale. Donc ça nous a menés ensemble. Puis il s'est intéressé au baroquisme. Alors, vous avez le baroquisme de la Provence, étudié par Michel Vauvel. Et le baroque est une dimension méditerranéenne. Vous voyez des gens comme Georges Frêche ou Claude Allègre. Ce sont des personnages baroques qu'on n'arrive pas à comprendre à Paris. Hein, oui. Il y a une espèce de gladiateur extraordinaire.
Qui monte au front.
Oui, c'est ça. Eh bien, il s'est intéressé au baroque, qui est dans l'origine en Italie et en Espagne, et aussi dans le sud de la France, c'est le Concile de Trente. C'est un baroque catholique, donc. Et je dirais que ces deux personnages n'y échappent pas non plus tellement. Et en particulier, au passage de la religion catholique de type baroque à la religion de type janséniste, ce qu'il a étudié en particulier à Paris. Alors là, ça n'est plus la zone baroque. Tandis que Vauvel l'avait étudié dans le midi de la France.
Alors, en histoire, évidemment, monsieur Leroy-Ladurie, on s'intéresse aux dates. C'est pas
oui,
évident.
Oui,
il y a des dates fastes et des dates moins fastes, et des dates attachées à des bons souvenirs et d'autres à de moins bons souvenirs. Alors, j'en ai trouvé une que je qualifierais de date très faste. C'est l'année 1929, et pourtant, c'était l'année du krach boursier, comme tout le monde sait. Alors, cette année-là, vous naissez à Moutier en Cinglé, dans le Calvados. C'était un 19 juillet. Et cette année-là aussi naît une revue, la revue intitulée Annales d'histoire économique et sociale, fondée par Lucien Febvre et Marc Bloch. Alors, j'aimerais que vous me parliez de cette revue. Y avez-vous collaboré ?
Oui, j'ai beaucoup collaboré. J'ai même dirigé pendant quelques années. Et ça continue toujours, c'est toujours fort intéressant. Un jeune directeur. Alors, la revue Marc Bloch et Lucien Febvre, l'un était un personnage qui partait du sol, en quelque sorte des racines, c'est Lucien Febvre, et qui avait un empirisme remarquable dans sa thèse sur la Franche-Comté, tandis que Marc Bloch s'inspirait des modèles allemands, des modèles anglais, pour l'histoire rurale de la France. Donc leur rencontre a été celle de l'empirisme et de l'organisation, l'empirisme organisateur, et très féconde, elle a abouti effectivement à la fondation de la revue Les Annales, qui ne s'intéressait pas trop aux événements, ni aux grands personnages historiques, ni aux rois, ni aux maîtresses des rois, mais aux vastes mouvements de l'économie, de la société, des mentalités chères à Lucien Febvre. Et c'est à partir de là qu'a procédé l'œuvre de Braudel et de Chaudu. C'est-à-dire, au départ, il y avait l'école géographique française, avec des gens comme de Mangeon, de Martonne et quelques autres, et Jules Sion, qui écrivait des grandes monographies régionales sur la Normandie, sur la Picardie, sur des provinces comme ça. Alors, Lucien Febvre a repris cet exemple, mais au lieu de faire cette province à l'époque actuelle, il a étudié la Franche-Comté au XVIe siècle. Et de là sont partis la Franche-Comté au temps de Philippe II. Et de là sont partis toute une généalogie. D'une part, la Franche-Comté au temps de Philippe II, de Lucien Febvre, est devenue la Méditerranée au temps de Philippe, du disciple de Lucien Febvre, qui était Fernand Braudel. Ça, c'est une des branches. L'autre branche est passée du côté des thèses d'histoire régionale, économique, avec Pierre Goubert, Morisseau, Vénard, Poitrinos, moi-même, et donc ce groupe d'historiens démographes, notamment, une histoire, espèce d'histoire matérialiste, même si les gens qui s'en occupaient étaient catholiques ou protestants, peu importe. Enfin, à la base, il y avait un contact avec le sol, avec la... D'accord.
Ça veut dire que l'histoire classique telle qu'elle était encore au temps de Michelet et celle qu'on apprenait à l'école avec Lavis, par exemple, celle qui effectivement tenait compte des grands événements par les hommes et par les hauts faits d'armes, si je puis dire, elle était devenue caduque ?
Non, pas du tout. Car l'histoire a été fondée, c'est le plus vieux métier du monde, avec la prostitution peut-être, c'est pas très convenable de dire ça, a été fondée, mettons, par Hérodote et Thucydide, et de ce point de vue, elle est toujours la même, c'est l'histoire des événements, des guerres, etc. Mais il y a des rameaux qui partent, et dans des directions pas tout à fait parallèles, qui sait, ou alors ce sont des parallélismes non euclidiens. Et c'est le cas, par exemple, de l'histoire religieuse ou de l'histoire des annales. Et puis souvent, ces rameaux se recourbent vers l'axe, car pas mal d'historiens de l'école, ce n'est pas mon cas, mais pas mal d'historiens de l'école des Annales, par exemple Pierre Goubert, a fait un Louis XIV. Il n'aimait pas tellement Louis XIV. Et ni Colbert, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, il a tout de même fait une société française autour de Louis XIV. Et Louis XIV lui-même. Jean Jacquard, qui avait fait une thèse sur l'île de France, a fait un ouvrage sur François Ier. Donc il y a eu, je vous dis, les branches qui ont quitté, qui se sont écartées du tronc, souvent y reviennent. D'autres, au contraire, comme moi, sont restés plutôt fidèles, entièrement fidèles à l'esprit des annales.
Donc vous vous considérez, vous, comme un historien des annales.
Oui,
pourquoi
tout à fait.
Pourquoi ce mot, d'ailleurs, annales
Bien, la revue existe toujours, elle est absolument excellente. Même j'ai pris un peu de distance, puis une question d'âge aussi. Annales, de mon temps, ça s'appelait économie, société, civilisation. Au départ, je crois que c'était annales d'histoire sociale, mais je ne veux pas dire de bêtises.
Oui.
C'est un nom de revue, oui, comme un autre.
Absolument. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des méthodes qui étaient disponibles, par exemple, en économie ou en démographie pour s'en servir dans l'histoire ?
Ils ont voulu le faire d'une manière historique. Et alors, par exemple, l'époque que j'ai connue, eh bien, on faisait de l'histoire des prix. Des prix qui indiquaient les tendances d'une époque à un certain moment. On faisait de l'histoire démographique. Et ici, Pierre Goubert a conflué avec l'Institut national d'études démographiques qu'on avait fondé pour repeupler la France, et puis qui a aussi été une source de réflexion sur la natalité, la mortalité et la nuptialité. Et alors c'est une histoire, là aussi, on a parlé d'une histoire totale, non. Disons une histoire complexe, selon le mot d'Edgar Morin, qui essaie de voir les différents aspects des choses. Prenez par exemple l'occupation de la France de 1940 à 1944. C'est évidemment une histoire complexe. Il y a des résistants. Il y a des policiers qui aident des gens qu'on va arrêter. Il y a une très grande complicité qui fait qu'on ne peut pas la juger uniquement selon les critères simples du manichéisme. Eh bien, en général, l'histoire, les annales veulent non pas une histoire totale, c'est trop ambitieux, on ne peut pas faire une histoire totale, mais une histoire complexe qui, On se rapproche en un sens du marxisme, puisqu'on reconnaît l'importance de l'économie, à laquelle Marx avait accordé effectivement beaucoup d'intérêt. Mais attention, la religion peut déterminer l'économie. Elle n'est pas forcément une superstructure. Et vice-versa, l'économie rejaillit sur la religion. C'est-à-dire, ce sont plutôt des spirales, ce sont des cercles, avec le haut qui influe le bas, et réciproquement. C'est une histoire complexe.
Alors, Emmanuel Leroy-Ladurie, quand Lucien Febvre est élu à l'Académie des sciences morales et politiques, vous aviez tout juste 20 ans. C'était en 1949. Et à cette époque, vous terminiez l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Alors, remettez-vous dans l'esprit de l'époque. Aviez-vous déjà le désir d'abord de faire de l'histoire? Je mets l'expression entre guillemets, parce que c'était l'expression de Lucien Febvre. Aviez-vous entendu parler de lui, je suppose? Aviez-vous lu ses ouvrages?
Oui, je connaissais bien sa thèse sur la Franche-Comté. C'est-à-dire, Fernand Braudel, je l'ai d'abord connu un peu de loin. Il y a un type qui avait des cheveux blancs, qui passait sa thèse à la Sorbonne, bon, comme ça. Ça devait être vers 47-49. Et puis, ensuite, c'était un ami de mon père, d'Henri Flammarion, parce qu'il a dirigé une collection chez Flammarion, où j'ai également publié une histoire du climat autrefois. Et il a... Alors, je l'ai connu ensuite. Il m'a d'abord appelé, il m'appelait Edouard, parce qu'il ne connaissait pas bien mon prénom. Mais il m'a connu par l'intermédiaire de mon père, qui était un ami d'Henri Flammarion. Puis, il m'a eu comme à l'agrégation, où au premier oral, j'avais été extrêmement brillant, et au deuxième, sous l'effet d'un produit qu'on appelait le Maxiton et le soleil trop brûlant à la piscine, je n'ai pas été formidable. Enfin, j'ai été reçu à l'agrégation. Et
agrégation il, d'histoire.
D'histoire, oui. Et alors, il avait dit à mon père, écoutez, qu'il vient de me voir. Alors, je suis venu, et j'étais également élève d'Ernest Labrousse. Et au fond, Braudel et Labrousse formaient couple, en quelque sorte, l'un dirigeant les thèses puisqu'il était professeur à la Sorbonne, et Braudel étant une sorte de port, de havre, de rade en quelque sorte, où on venait jeter l'ancre à l'abri des tempêtes. Et puis il avait trouvé des ressources financières, il avait embauché une quantité de gens à l'école des hautes études. Donc c'était ce couple, Labrousse-Braudel. Alors Labrousse, quand on allait chez lui, c'était comme chez le dentiste, où il y avait toujours 4 ou 5 ou 6 historiens qui attendaient sur des chaises, qui étaient reçus tour à tour. Et il avait donné des thèses par département. On disait qu'il voulait départementaliser l'histoire de France. Il a eu des élèves remarquables et il a fait une école d'histoire économique qui est très importante. Alors, quant à Braudel, c'était un peu différent. Il recevait chez lui. Ouais. Et, alors, nous avons contribué à la deuxième édition, nous, c'est-à-dire un certain nombre d'historiens, avons contribué à la deuxième édition de sa Méditerranée. Car la première édition, il n'y avait pratiquement pas de graphique. Braudel disait, on pourrait faire un graphique. La deuxième, il y avait beaucoup de graphiques qui venaient un peu de son travail à lui et de ses élèves. Et donc, à ce moment-là, il m'a embauché à l'école des hautes études. Il avait trouvé une petite situation à ma femme, puis elle s'est débrouillée toute seule pour nous faire venir à Paris. Et il m'a nommé à la direction des annales et à la direction du centre de recherche historique. Et j'étais un des 4 juges des enfers qui dirigeait sous sa tutelle...
Le Minos ou le Radamante.
Oui. Et non pas 3, mais 4 juges des enfers. Alors, il y avait Clemens Seller, qui était l'homme qui lui avait fait découvrir l'Amérique, puisque ce n'est pas le cas de Braudel, qui connaissait très bien l'Espagne et l'Italie et l'Allemagne. Rappelons que Braudel, dans son camp de prisonniers, autant le camp de déportation était horrible, autant les camps de prisonniers, sans être très gays, étaient quand même... La Wehrmacht observait la Convention de Genève et la Braudel recevait des livres de la bibliothèque proche de la ville, mettons que c'était Mayence, je ne sais plus trop laquelle. Et de même, Louis Dumont, le grand anthropologue de l'Inde, qui a été lui aussi mon maître, avait une permission de sortie de son camp de prisonniers pour aller prendre des leçons de sanskrit chez un professeur de Hambourg. C'est des choses qu'on ne dit pas assez, mais qui sont impressionnantes. Et là, je dirigeais donc l'école des hautes études, et puis... J'ai passé ma thèse, mes 2 thèses, l'une sur le Languedoc, l'autre sur le climat, et l'histoire du climat, qu'il n'y avait pas encore de travaux à ce sujet. Et bien, par la suite, je me suis présenté à la Sorbonne. Et Braudel avait été collé à la Sorbonne. Il n'aimait pas beaucoup cet endroit, il m'en a un petit peu voulu.
Emmanuel Leroy-Ladurie, on va marquer une courte pause, on se retrouve dans un court instant.
La bibliopholie, c'est l'amour fou des livres de bibliophilie. Écoutez notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, il n'hésite pas à créer quelques néologismes pour faire partager sa passion. Bibliopholies, chronique d'un bibliophile, une émission au fil des pages à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Je disais tout à l'heure, Emmanuel Leroy l'a dit, que les dates, évidemment, étaient importantes en histoire. Alors, il y en a plusieurs qui jalonnent votre carrière. Il y a sans doute celle de 1966, où vous soutenez votre thèse de Dr Eslet sur les paysans du Languedoc. Justement, vous en parliez.
Les paysans de Languedoc.
De Languedoc. Ah, bon, quelle est la différence? Alors, éclairez-moi.
On disait toujours de Languedoc au XVIIIe siècle, par exemple. Deux bénédictins, de Vic et Vesette, ont écrit une histoire...
Oui, parce qu'ils étaient de la Languedoc, oui, c'est ça, peut-être.
Je sais pas, ont écrit une histoire générale de Languedoc, et pas du Languedoc.
Très bien. Après, en 1973, vous avez prononcé la leçon inaugurale de votre chaire au Collège de France, chaire d'histoire de la civilisation moderne. Et vous avez occupé cette chaire jusqu'en 1999, c'est-à-dire
oui.
26 années.
Et puis je garde encore même un pied au collège.
Alors, quel souvenir gardez-vous de cet enseignement au Collège de France?
Eh bien, c'était un enseignement très libre et c'est là que j'ai préparé mes divers ouvrages sur l'histoire économique et sociale de la France, sur la famille Plater, sur les régions de France, sur un peu d'histoire quantitative aussi. Donc j'y étais évidemment très, très heureux. Néanmoins, je n'ai pas été l'un des faiseurs de rois, si vous voulez. Je crois que le petit centre qui vraiment dirigeait le collège, avait de l'affection pour moi, mais je restais un peu périphérique, voilà, c'est ça. Mais enfin, j'étais très content. Surtout que le collège s'est très bien arrangé au fur et à mesure. Quand j'y suis arrivé, il y avait des traces de pauvreté encore. Et puis, peu à peu, ça a été reconstruit. Et les administrateurs m'ont toujours aidé.
Alors, en 1975, vous publiez un succès mondial, Montaillou, village occitan. Quel a été le tirage de ce livre? Est-ce que vous en avez une idée
non,
précise?
Non, enfin, au moins, dans le monde entier, quand même bien 500 000, peut-être. Je ne dirais pas un million, mais enfin, je sais qu'il y a eu, ça a été un best-seller en France, mais aussi en Hollande, en Suède, dans pas mal de pays. En tout cas, oui, c'est un best-seller, puis surtout, c'est un livre connu, quand même.
Et traduit en beaucoup de langues?
Oui, beaucoup.
Et vous avez chacune des éditions dans votre bibliothèque?
Oui, je les ai, j'ai donné à la BN. Mais sauf dans les pays arabes. Et en Iran, où il est possible qu'il y ait des éditions du reste pirates, mais ça, je ne sais pas. Mais sinon, on peut dire les langues asiatiques, slaves, anglo-saxonnes, germaniques, latines, ça a été partout traduit. Il faut dire que j'étais parti d'un document tout à fait étonnant, qui était le registre d'acquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers, 13e, début 14e. Et je crois que c'est un des plus grands textes de l'histoire du Moyen-Âge, un peu comme Tristan Iseux, sauf que Tristan Iseux, c'est de la fiction, là, c'est quand même... dans une assez large mesure de la réalité. Et mon seul mérite a été, au fond, d'en tirer quelque chose et de comprendre qu'il s'agissait là d'une étude d'un village. Deux gens avant moi avaient connu ce document. Un prêtre allemand, fin 19e siècle, ennemi de l'idée que les papes ont toujours raison quand ils parlent ex cathedra. Et puis, les ecclésiastiques méridionaux. Il y a en particulier une belle étude de ce registre dans les annales de l'église Saint-Louis des Français de Moscou. C'est extraordinaire quand on y pense. Elle est à la BN, mais... Et puis, alors, il y a eu Duvernois. Duvernois était un avocat, Jean Duvernois, était un avocat, je crois, de l'EDF, il me semble. Et on lui avait reproché d'avoir noyé le village de Tignes. Vous savez qui a été inondé?
Ah oui, en effet, par le barrage.
Et
oui.
Est-ce pour cela qu'il a fait émerger le village de Montaillou? Je ne sais pas. Village pour village. Et donc, il a publié en latin... le document de Jacques Fournier, qui était conservé aux archives du Vatican, puisque Jacques Fournier, qui était assez content du travail qu'il avait fait, l'avait transporté à Avignon, où il est devenu pape sous le don de Benoît XII, premier quart du XIVe siècle, et de là à la bibliothèque du Vatican. Malheureusement, il y avait un deuxième volume qui a été perdu.
Voilà, donc on saura tout sur les sources de Montaillou, village occitan. Alors, en 1987, vous êtes nommé administrateur général de la Bibliothèque nationale.
Oui.
Mais là, c'était la bibliothèque ancienne, c'était la bibliothèque de la rue
Richelieu.
Oui, enfin,
c'est aussi, elle a conquis, elle a su s'annexer, la nouvelle bibliothèque,
oui.
Ce qui est très bien.
Et vous étiez aussi dans cette...
C'était compliqué.
Dans ce
mais
projet
enfin, on a voulu nous faire sortir par la porte et nous sommes rentrés par la fenêtre. Parce qu'on avait besoin de nous, quand même. Et en particulier, c'est nous qui avions les livres, quand même, donc... Et je me suis bien entendu avec M. Dominique Jamais, que Camitera avait préposé à cette construction. Et finalement, je me suis surtout occupé de la vie quotidienne de la bibliothèque, mais aussi de l'informatisation du fichier, du catalogue, que j'ai poussé tant que j'ai pu, espérant ainsi faire une histoire quantitative du livre. Et puis ça n'a pas pu marcher, mais en tout cas, le fichier informatisé est très utile au lecteur. On peut le consulter sur Internet, etc. Ben, la nouvelle bibliothèque marche bien. Certes, on peut critiquer cette architecture, qui n'est pas très raisonnable, Mais enfin, ça marche.
Mais ça marche, et c'est au moins utile pour tous ceux qui cherchent et qui veulent plonger dans les livres.
Et c'est d'une modernité assez extraordinaire.
Il y a aussi les trois dates qui sont importantes dans votre carrière. C'est les dates de la publication de votre grande œuvre, Histoire humaine et comparée du climat. Alors, un premier tome, Canicule et glacier, en 2004. Un deuxième tome, Disette et révolution, en 2006. Et un troisième tome, Réchauffement de 1860 à nos jours, 2009. Vous êtes vraiment sur un sujet dont tout le monde parle, j'allais dire. Seulement en historien, d'ailleurs.
En réalité, j'étais moi le premier, pas chez les scientifiques qui ne m'ont pas attendu, mais chez les historiens, le premier et j'allais dire le dernier. Il y a des gens il y a un monsieur de 60 ans, un monsieur de 40 ans et des jeunes. Mais en fait, ça a tenu à peu de choses et encore maintenant. Alors, en 1967, j'ai publié Histoire du climat depuis l'an 1000, qui a été assez bien reçu, avec j'ai étudié notamment les dates de mort, des choses comme ça, les glaciers. Même si j'ai eu parfois des réflexions un peu ironiques du genre « Tiens, fausse science !» ou encore « Tu pourrais pas nous faire un monsieur qui était enrhumé, mes bons amis, dirait, tu pourrais pas nous faire un changement de climat ?» ce que j'avais trouvé un petit peu avec ça. Mais j'ai continué et finalement, les scientifiques, très gentiment, se sont aperçus de mon existence et ils m'ont invité à leurs travaux. Et en particulier, ils se sont intéressés aux dates de vendange dont j'avais montré tout l'intérêt pour une étude du climat. Et depuis, donc, j'ai continué. Et ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, puis les grandes fluctuations du XVIIe et XVIIIe siècle. Enfin, le réchauffement actuel.
Il y a sur les émissions de Canal Académie plusieurs communications que vous aviez données à l'Académie sur ce sujet, en effet. Avant de terminer, Emmanuel Leroy-Ladurie, il y a, d'abord, je voudrais dire que vous êtes docteur honoris causa de 15 universités étrangères. C'est quand même formidable. Oui, vous êtes allé dans toutes ces universités pour recevoir
Peut-être même de 16, je crois. Enfin, en tout cas, au moins 15, oui.
Au moins 15.
Oui, oui. La dernière, c'est au Japon. Oui.
Vous présidez le jury du prix Provins Moyen-Âge.
Oui,
c'est un prix qui avait été inauguré, lancé par Alain Perfit de l'Académie française.
Je m'excuse, je parle style méridional, je dis Perfit.
Vous dites comme vous voulez.
C'est comme ça qu'on dit à Montpellier. Perfit, donc, avait peut-être eu l'idée, mais c'est le maire actuel qui est d'origine rurale et qui a lancé ce prix de Provins. Ma vue ayant baissé, malheureusement, je peux moins m'en occuper. Mais enfin, je reste président, parce que je crois qu'à Provins, on a de l'amitié pour moi. Et donc, Provins est une ville médiévale. C'était Alain Perfit qui s'en était rendu compte et qui avait remis en valeur et en vigueur les anciens remparts. Évidemment, la place est prise par Carcassonne, il faut dire la vérité, grâce à Viollet-le-Duc. Mais enfin, il y a encore une importante place pour Provins.
Elle est classée d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis 2001. Alors dans ce jury du prix Provins Moyen-Âge, on trouve aussi évidemment des historiens, Pierre Bénard, Philippe Contamine de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Bernard Cottret, Jean-Philippe Delvaux, Alain Demurger, Louis Duchamp, Gisèle Guénaud, Simon Roux et Laurent Tess et François Verdier. Le prix 2009 a été attribué à André Vaucher de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour son François d'Assise. Et le prix 2010 a été décerné le 12 septembre à l'historienne Lidvine Scordia pour son ouvrage « Le livre des trois âges ». Canal Académie propose d'ailleurs une émission sur ce livre avec la lauréate et Philippe Contamine de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Aujourd'hui, Emmanuel Leroy-Ladurie, si vous n'aviez pas 80 ans, mais une trentaine d'années, est-ce que vous seriez toujours historien du climat ? D'abord, toujours historien, je suppose.
Je ne sais pas, oui.
Et quel sujet auriez-vous aimé traiter ?
C'est-à-dire, j'ai un faible qui n'est pas très, très réjouissant pour la Seconde Guerre mondiale. Et en particulier, je lis assez bien l'allemand sans le parler. Donc, j'ai beaucoup lu de textes. Le texte allemand sur ce sujet, notamment le journal de Thomas Mann, le journal de Klemperer et d'autres qui ne seraient pas décents de nommer. Mais enfin, il faut bien
les lire aussi.
Il faut bien les lire aussi, souvent intéressant. Mais enfin, comme j'en avais cité un, je me suis fait. Pourtant, il fallait bien le lire. Je t'ai attaqué, donc je préfère encore des imbéciles.
Ah, donc il y a du politiquement correct dire ou...
Qu'on lit.
Bon, mais un historien a le droit de tout lire, non ?
C'est sa liberté. Mais il y a encore des imbéciles en France. Oui. Alors, mais donc voilà un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Mais je crois en réalité que j'ai une vocation scientifique ratée, parce que c'est pour ça que je me suis intéressé au climat. Parce qu'au fond, peut-être sous l'influence de ma mère, j'avais voulu être prêtre. Et tu vois, je suis catholique, je ne m'en cache pas. Et j'étais très bon en sciences, et du coup, on m'a fait faire du grec, et donc j'ai abandonné la carrière scientifique pour une carrière littéraire. Puis j'ai pris des options politiques qui ont fait que je ne pouvais plus tellement aller dans d'autres voies. Et donc, je suis devenu historien de l'école des Adales, mais aussi historien du climat, ce qui était une façon de rejoindre le camp scientifique, même si, en fait, je n'ai pas la sophistication toujours nécessaire.
Et si vous aviez été scientifique, vous auriez été quoi ? Physicien, chimiste, biologiste ? Quel genre de scientifique ?
Maintenant, je dirais historien du climat, mais non, c'est facile à dire. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Mais sinon, je ne sais pas, l'astronomie ou autre chose. Mais je pense que le climat reste un sujet passionnant. Alors en ce moment, il y a une tempête médiatique. Et là, il vaut mieux rester chez soi, parce que c'est dans les tempêtes, on peut recevoir un arbre sur la tête. Il y a souvent des morts.
Nous, nous invitons à la fois M. Allègre d'un côté et les représentants du GIEC de l'autre côté. Donc nous ne craignons pas les tempêtes à Canal Academy.
Oui, mais moi je suis devenu, vous êtes jeune, mais moi je suis devenu très prudent avec l'âge.
Ah bon?
Vous savez...
Au contraire, l'âge devrait te donner une grande liberté.
Non,
justement. Liberté de parole.
Je me gênais pas tellement pour dire ce que je pensais. Et puis en 87, je suis devenu administrateur général à la Bibliothèque nationale. Et là, existe ce qu'on appelle le devoir de réserve. Et donc, j'ai trouvé ça très confortable.
Ah oui?
Et donc, évidemment, à la bibliothèque, j'étais fidèle au devoir de réserve. Et puis, mon Dieu, j'ai continué après. Parce que je trouvais ça confortable. Je suis pas très courageux.
Mais si, je suis sûre que vous êtes très courageux. Merci en tout cas d'être venu dans notre studio et merci à tous ceux qui nous écoutent sur Canal Academy. À bientôt pour une autre émission, monsieur.
À bientôt, chère madame.